La traité de Megillah, Halalou Bilshon Rabim, parce que les premières malédictions sont dites en utilisant le pluriel. Et ça veut dire, quand le texte utilise le pluriel pour parler à Israël, ça veut dire que ça concerne chaque individu pour lui-même dans sa destinée individuelle. Lorsque c'est un singulier, ça concerne tout Israël dans sa destinée collective. Donc la différence de style de ces deux textes, c'est que dans le livre de Vaïkra, Bishon Rabim, c'est au pluriel, où Moshe, Mipia Gvoram Amaran, non, c'est pas dans le Vaïkra, dans de Sira, Mishneh Torah, de Deutéronome, Halalou, les dernières, Mishneh Torah, Bishon Rabim, ou Moshe, Mipia Gvoram Amaran, et non, j'ai bien dit, c'est Vaïkra. Et Moïse les a dites directement, Mipia Gvoram, ça veut dire, par révélation directe, je reprends votre expression, Halalou Bilshon Yachid, mais ici, c'est dit au singulier, ou Moshe Mipi Atzmo Amran, et Moïse l'a dit de lui-même. Veyeshit moi, et pourtant, il faut s'étonner, Ha Amrinan, on cite dans le Talmud, Be'alma, on dit en général, Ha Omer en Torah min Hashamayim, celui qui dit que la Torah n'est pas révélée, et même un seul verset, il prétendrait que c'est Moïse qui l'a dit de lui-même. Alav Nehemar, qui devra Hashem Baza, de celui-là on dit, en citant un verset de Dvarim, qu'il a méprisé la parole de Dieu et donc il a parole à Mabah, dans Sanhedrin, contradiction. D'une part, on nous dit, en s'appuyant sur la différence que le Talmud fait entre les klalot de Vaïkra et les klalot de Dvarim, que les unes, Moshe les a dites, Mipia Gvura, par révélation directe, et que les autres, il les a dites de lui-même, et pourtant, d'autre part, on apprend, celui qui dit qu'un seul mot verset, Moïse l'a dit de lui-même, n'a pas part au monde à venir, contradiction. Ça va? C'est pas trop dur? Alors la suite, avant que ce soit l'heure. Ve'onan Yuban, et cependant, cela sera compris, Alpish Reiti, d'après ce que j'ai vu dans un livre, Beshem Agra, du Gaon de Vilna. Ahevdel Sheben Arba Sfarim Rishonim, la différence qu'il y a entre les quatre premiers livres, Ben Mishneh Torah, et la différence qu'il y a entre les quatre premiers livres et le Deutéronome. Qui Arba Sfarim Rishonim, car les premiers livres, Hayu Nishma'in Mipia Kadosh Baruch Hu Be'atzmo, étaient entendus de Dieu directement, derer Garono Shel Moshe, par l'intermédiaire de la gorge de Moïse. Ça veut dire Dieu parlait dans la voix de Moïse. C'est clair? Et on va citer un verset tout à l'heure qui le dit clairement dans la Torah. Lochen Sefer Devarim. Ce n'est pas le cas du Deutéronome. Hayu Israël Shomayin Oto Mipi Moshe Atzmo. Israël l'entendait de la bouche de Moïse lui-même. Ça veut dire qu'il y avait une différence de privilège et de dignité. La génération des pères qui entendait Dieu parler dans la voix de Moïse, et alors, quand ils se trompaient à ce niveau-là. Alors que la génération des fils entendait Moïse dire ce que Dieu disait. Vous avez compris la différence? Bon, ça vous fait toucher du doigt, encore une fois, l'importance, comme j'ai dit tout à l'heure, mais plus, l'importance des nuances de style en hébreu, non seulement de la Torah elle-même, comme on a vu tout à l'heure, mais dans ce que cite le Midrash ou le Talmud. Méfiez-vous, surtout dans une autre langue que l'hébreu, lorsque les gens vous disent « la tradition dit que », et grosso modo, on vous cite n'importe quoi, n'importe comment. Ou lorsque on vous dit « j'ai lu que, mon maître m'a dit que », il faut toujours demander, de pour ouvrir les guillemets, quoi exactement, et à la lettre. Parce que si on a changé une lettre, ça a changé. Vous avez compris ce que je veux dire? Méfiez-vous de ça. C'est au fond un peu le sens, j'ajoute, un drache, de ce que dit la Mishnah, « à Omer d'abar beshemomro, mevi geola laola ». Celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit, amène la délivrance dans le monde. La citation directe, le pshat, c'est « faut toujours dire qui a dit quoi ». J'explique d'abord ça. Quand Rabbi Akiva dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça a un sens. Et quand Monseigneur X ou Y dit « tu aimeras ton prochain sauf juif comme toi-même », ça a un autre sens. Ben non, c'est très sérieux ce que je vous dis là. Ça dépend de qui dit quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon. Et je vais vous rappeler, je vous ai cité une fois, mais il y a des années, comment j'ai compris ça? Un jour, j'ai eu entre les mains une gravure de l'humour anglais. Vous savez que ça existe. D'ailleurs, le plus grand humour anglais, c'est les recettes de cuisine anglaise. Les menus anglais. Ça, c'est un humour colossal. Mais j'ai vu une gravure extraordinaire. C'était un... Je crois que ça accompagnait une marque de publicité pour du savon, je ne sais pas quoi. Un bébé tout nu, assis dans la position d'un yoga, très grave, et disant « Ah, mes enfants, la vie !» Alors imaginez, un vieillard qui dise « Ah, mes enfants, la vie !» Ça a un sens. Un bébé qui dit ça. Vous avez compris la différence. Alors bon, ça c'est en tout cas c'est le pshat. Il faut toujours dire qui a dit quoi. Mais j'ai ajouté une nuance. « Omer d'abar bechem omro » dans les mots que celui qui l'a dit a employés. « Bechem omro »« Bechem mamash » Vous avez compris la lecture en hébreu. Alors, on continue, s'il n'y a pas de difficulté dans la première colonne. « Vehine yeboahu dibra midrash kan » Là, ça va devenir, accrochez-vous, hein, ça va devenir un peu plus rabbinique. « Vehine or dans sikha ou basé yeboahu dibra midrash kan » Et par cela, ce qui a précédé, seront éclaircies les paroles du Midrash ici, sur le verset Marpé Lachon et Traïm. Marpé Lachon et Traïm. Un verset difficile à traduire. Qui va m'aider à traduire pendant que je vais boire une gorgée de Marpé Lachon? Vas-y, Marpé Lachon. Je vous aide un peu. Nous avons énormément de genre de dictionnaire spécialisé qui s'appelle en général Marpé Lachon. Par exemple, il y a un dictionnaire. La première fois, ça a été édité à Odessa par une communauté juive russe. Delo Azim de Rashi. C'est-à-dire, chaque fois que Rashi emploie un mot de vieux français, en faisant un dictionnaire où c'est expliqué, d'abord les sources, c'est expliqué en allemand, en yiddish et en hébreu, le mot d'ancien français. Regardez ce que les juifs russes étaient capables de faire. D'ailleurs, c'est une chose connue. Les juifs russes sont des polyglottes. Les juifs russes, les russes en général, sont spécialistes des langues. Si vous avez besoin d'un interprète, prenez un russe. Ça lui donnera du travail.
Je vais vous proposer une chose très intéressante. L'idée de la blague mystique avec quelques groupes changera de situation.
Écoutez, je vais vous dire, c'est pas une blague. Peut-être qu'on a besoin de lui chez eux. Oublié. Vous avez entendu parler de la cinquième colonne? Alors, je reviens au sujet. Marpé Lachon, ça veut dire une manière de parler qui adoucit le langage, mais le mot exact, c'est qui guérit. Marpé Lachon, qui guérit la langue. Marpé Lachon. C'est une expression hébraïque qui vient d'un verset de la Bible, d'ailleurs. Marpé Lachon, Ezraïm. L'arbre de vie est Marpé Lachon. Vous savez que la Torah est appelée Ezraïm. Lorsque on parle un langage qui est Marpé Lachon, c'est ça Ezraïm. C'est ça l'arbre de vie. Alors le Midrash cite ce verset et on enchaîne. Ad shelo zacha la Torah, jusqu'à ce que Moïse, avant que Moïse ait mérité d'être le porte-parole de la Torah, Ketiv Be, il est écrit à son propos, Loïch Devari Manochi. Je ne suis pas un homme de parole. Attention, pas en français, hein. Ne pas être un homme de parole. Ça veut dire, il faudrait dire Loïch Devari Manochi. Je ne suis pas un parleur. Non, orateur. Non. Je ne suis pas, non, un homme qui aime parler. Et Ish Devarim, dans le langage juif de l'hébreu, ça veut dire un homme qui fait des histoires. Ish Devarim. Loïch Devari Manochi. Pourquoi? Parce que. Marvé Devarim, Mevichet. Quand on multiplie les parlotes, on entraîne la faute. Ça, vous avez des gens qui parlent à tort et à travers. Hein? Et ça induit des procès à la Knesset. vous connaissez la Mishnah, hein? Siyag la Chochma Shtika. Vélo. Attendez, comment on dit aussi l'autre Mishnah? Bon, Siyag la Chochma Shtika. Ça veut dire là, on dit siag. Non, mais je cherche un autre mot. Non, attendez. Siag, non, ici, pour dire, pas une barrière à la sagesse, une protection à la sagesse. si on veut être dans le sillage de la sagesse. C'est sillage. Shtika, c'est le silence. Zinat Mishnah. Kol yamai gidalti ben hachamim. Et la shtika ou mishtika. Il y a deux vertus. Hein? Toute ma vie, quel est le haram qui dit ça? Il mériterait qu'on le cite. Non? Bien fait. Il enseigne ceci. Toute ma vie, j'ai grandi au milieu des sages. Regardez l'expression. Toute ma vie, j'ai grandi au milieu des sages. Quand on est au milieu des sages, on grandit toute sa vie. Ça veut dire on reste jeune. Ça a l'air paradoxal. Et velo masati, la gufto, et je n'ai pas trouvé pour le corps meilleure chose que le silence. C'est une Mishnah difficile. Le Rav Nachman de Breslav a enseigné à propos de cette Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai grandi entre les sages? Qu'est-ce qu'il y a entre les sages? Il y a la machloket. J'ai compris. Ça veut dire, toute ma vie, j'ai assisté aux controverses des sages, et de là, j'ai appris qu'il n'y a rien de meilleur pour le corps que le silence. C'est joli quand vous expliquez ça. Alors pourquoi le corps? Exact. Réfléchissez, pourquoi le corps? Il y a une mimra du Talmud que certains d'entre vous doivent connaître. Je vais vous aider. On lisait en commencement. Achoshé Bikcherim, loqué de gouffre. Le Talmud dit ceci. Achoshé Bikcherim, loqué de gouffre. Celui qui soupçonne des gens qui sont cachers est frappé dans son corps. J'ai compris. Vous voyez ce que risque d'induire la marloquette. Hein? Alors, encore une fois, j'en profite pour vous citer quelque chose que j'ai dit souvent. Ne tombez pas dans le défaut des étudiants en médecine. Vous savez, le défaut des étudiants en médecine, c'est chaque fois qu'ils étudient une maladie, ils sont persuadés qu'ils l'ont. Alors, quand vous entendez une vous savez ça, quand vous entendez une règle qui porte un jupe, hein? Il risque bien. Et quand vous entendez une règle qui porte un jugement de valeur, ne cherchez pas qui ça concerne. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout de suite, quelqu'un va dire, ah, c'est ça, que, qui, que, dont, lequel, le voisin, le cousin. Vous avez compris ce que je veux dire? Méfiez-vous. Ce sont des règles qu'il faut comprendre. Et puis, il ne faut pas s'instaurer en juge, diagnostiqueur. Eh bien, vous savez, l'homme pieux là-bas qui a été atteint par son corps, c'est parce qu'il a été accroché de Bikcheri, mais ça a laissé le jugement à Dieu. Ça, c'est clair. Quel... Bon. Alors, on continue. Pourquoi je vous ai parlé du silence et tout ça? Ah oui, Kiloïch de Varimanos. En fait, c'est aussi un grand sujet. La manière dont on traduit que Moïse bégayait, vous avez vu ça dans les traductions, c'est très mal traduit. Imaginez que Dieu a choisi comme porte-parole quelqu'un qui bégaye. Ça, c'est l'humour divin. Et, en fait, je veux dire ça un peu avec humour. C'est quand Moïse est venu leur dire « C'est l'heure de monter en Eretz Israël », qu'est-ce qu'ils lui ont dit les Hébreux ?« Tu bégayes. » Non ? Imaginez Herzl à la rue pavée. Il faut faire la Aliya. Ils vont entendre. Tu bégayes. Aaron, mais ça s'est passé deux fois de la même manière. C'était pavé de bonnes intentions. On revient au sujet. Loïs de Varimanov. En réalité, c'est un autre sujet. Pourquoi, avant la révélation, Moïse ne pouvait pas parler? Il a fallu la sortie d'Égypte pour qu'il puisse parler. Tant qu'il était en Égypte, la parole était prisonnière. Lorsque la sortie d'Égypte a eu lieu, la parole a été délivrée. Ça, on étudie, c'est un sujet pour lui-même. Un jour, si on a le temps, reposez-moi la question. Et là, il est advarim, asher diber Moshe. Attendez, non, j'ai sauté une ligne. Qui vint chez Zachar la Torah? Fin de la deuxième ligne et début de la troisième ligne. Qui vint chez Zachar la Torah? À partir du moment où il a mérité d'être le porte-parole de la Torah, Nitrapa, il a été guéri. Non, Nitrapa les chonos, sa langue a été guérie. Veitri le daber dvarim, et il a commencé à parler les paroles. Attendez, c'est pas fini, mais je vais une petite parenthèse. Pourquoi le rab, ici, a dit sa langue a été guérie? Il se réfère à un midrash qui dit que lorsque Moïse était enfant, il était sur les genoux du pharaon, et puis il jouait avec la couronne du pharaon, et il a enlevé sa couronne. Et il y avait à la cour du pharaon trois sages que le pharaon a interrogés avec beaucoup d'inquiétude. Et un d'entre eux, c'était Bilram d'ailleurs, lui a dit « Fais attention, ça veut dire qu'il y a un enfant qui va te détrôner. » Et c'est pourquoi il a décidé de jeter tous les enfants dans le Nil. C'est une longue histoire que la Torah raconte très en détail. Mais le Midrash dit que Eliyahu Hanavi, sous les traits d'un autre des conseillers du pharaon, c'était Jéthro d'ailleurs, si je me souviens bien, sinon vérifiez, hein. Je vous dis ça mémoire. Il a dit apportez un chaudron, un canoun avec des braises, okay, et si l'enfant prend une braise en croyant que c'est de l'or, ça veut dire que c'est pas grave, il a de l'or de la couronne, de l'or du feu, et il a pris un autre midrash dit que l'ange Léonavi lui a touché les lèvres avec le... et il s'est brûlé la langue. Voilà, c'est pourquoi il était Kéva de la Chaune, la langue lourde. C'est un midrash. Hein, voilà pourquoi le Rav ici emploie l'expression « lorsque sa langue a été guérie ». Et alors ça veut dire que... bon, je ne vais pas exploiter ce midrash, je referme la parenthèse. « Lorsque sa langue a été guérie, alors ma fille est avec Davarim. » On continue. « Et la Davarim, je libère mon ché. » D'après ce que dit le début de notre verset, voici les paroles que Moïse a dites. « Dehine kvar » Kadvu ata'am chez Aya Moshe Kavet Pe. C'est parce que déjà, nos maîtres ont écrit la raison pour laquelle Moïse était loup de la bouche. Bishvin chez Adrou Akol, Shadvarim chez aussi Mifi, parce que tous savaient que les paroles qui sortent de sa bouche, le roi Mdaber, c'est pas lui qui les dit. Otam. Et là, Ashrina Medaberet de Migarono, c'est la Shrina qui parle à travers sa gorge. Vechen de Mitraim, et ainsi en Égypte, il a été évident au pharaon et à tous ses serviteurs que la bouche qui leur parlait, l'opif chez Moshe, ce n'était pas la bouche de Moïse, mais la shrina qui parlait du dedans de lui. Car il le connaissait, chez Umegamgem, qu'il bégayait, mettez ça entre guillemets, Bilchono, Velo Yachol Daber Sachot. Et ne pouvait pas parler en clair. Va'abour, chez Mishneh Torah, et Atzarich le Daber Mipiratmo, et parce que le Deutéronome, il devait lui le dire de lui-même, Nitrapa Leshono, sa langue a été guérie, Batei Zot, Leot Nofet, et ceci a été un signe et une preuve, chez Pe, chez Po, Loaya Yachol, le Ablit, Tira, une minute. Chez Pe, chez Loé, Nachol, que la bouche qui ne pouvait pas exprimer une seule parole sans bégaiement, Arsha Matri Léatif Berov Noam, maintenant il commence à Léatif. Hein? Français? Léatif, en français. Hein? Le mot m'échappe en français. Oui, il pouvait prêcher avec beaucoup de douceur et Kirou Akol. Alors tout le monde a reconnu chez Gam Mashu Medaber Arshav que même ce qu'il disait maintenant, Mipiratmo de lui-même, Rush Nistavarala, c'est ce qu'il a été ordonné de dire, Mipiagvura, de par la révélation, Vezekivan chez Zachala Torah, et cela vient de ce qu'il avait mérité d'être celui qui soit le porte-parole de la Torah, chez Keva, Nishracha Emuna, car déjà la foi, chez Atorah Iminashamaim, et que la Torah est révélée du ciel, s'était enracinée, n'étra pas les chenaux, sa langue a été guérie. À partir du moment où tout le monde savait que lorsque Moïse parle, c'est Dieu qui parle, il n'avait plus à, lorsqu'il parlait lui, indépendamment de directement les quatre premiers livres, il n'avait plus à, il pouvait parler normalement, alors qu'il était connu comme quelqu'un qui ne pouvait pas parler normalement. Je voudrais quand même ajouter quelque chose pour... ça relie à ce que j'ai dit en parenthèse tout à l'heure, c'est pas parce que Moïse ne pouvait pas parler qu'il parlait difficilement, c'est parce qu'il avait trop à dire. Celui qui a trop à dire n'arrive pas à parler. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est l'inverse. J'ai mieux compris cela dans un autre sujet, lorsque j'ai étudié la fonction de l'oubli dans la philosophie de Bergson. Ça a l'air de ne rien avoir, mais vous allez comprendre tout de suite. Alors Bergson explique que le cerveau a une fonction d'oubli qui permet au langage de trier ce qui doit être dit, parce que si tous étaient présents, on ne pourrait pas parler. Vous avez compris l'idée ? Non. Alors, je continue. Minaïn, Mima, Shekarin, Vainyan, et d'où nous savons tout cela ? De ce que nous avons lu, c'était pas question de toi, et les Advarim, Machas, Bibel, Moshe, sans le va. Voilà, on s'arrête là. J'ai encore le temps de traduire tout à l'heure, mais on a un petit peu de temps. Si vous avez des questions incidentes, on va les prendre jusqu'à 8 heures. Quel ? Ça veut dire que il a retranscrit mot par mot les paroles de Dieu, ou bien il a parlé dans son propre langage des paroles. Ça veut dire, c'est deux choses à la fois. Je vais revenir, et ça veut dire encore plus. Ça veut dire qu'il a parlé en tant que chef du peuple, et pas seulement en tant que porte-parole de Dieu pour Israël. Ça, c'est le style des quatre premiers livres. Que Moïse est d'une transparence absolue, surtout pour éviter le risque de divinisation de Moïse par le peuple, de ce qu'on appelle le culte de la personnalité. La gloire de Moïse comme médiateur, c'est qu'il est un médiateur absolument transparent. Il ne réussit que lorsqu'il s'efface. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'une génération a eu la tentation de diviniser le médiateur, ça s'est séparé du judaïsme. Ça a été d'ailleurs la faute du Erevab après le Sinaï, puisqu'ils ont voulu remplacer Moïse par le veau d'or, parce que Moïse tardait de descendre de la montagne. C'est un sujet qu'on étudie chapitre 12 et 32 de l'Exode. Et donc, dans les quatre premiers livres, c'est Moïse qui est le porte-parole de Dieu, mais en tant que porte-parole relais de la révélation, en tant qu'il est le prophète transmettant la loi. Alors que dans le cinquième livre, il laisse se formuler son identité de chef du peuple. Je le dirais aussi d'une autre manière, Dieu lui dit ce qu'il a à dire, non seulement comme prophète, mais en tant que chef du peuple. C'est ça, mais Atzmo. Atzmo chez Moshe, c'est pas sa personne pronominale, c'est l'essence de Moïse. Et l'essence de Moïse est d'une identité différente. Premièrement de tous les autres prophètes, et à plus forte raison de tous les autres non-prophètes. C'est un sujet pour lui-même. C'est pas pour rien qu'il est appelé Isha Elohim. Je traduis, puisque j'ai cité ça, le texte l'appelle homme de Dieu. J'ouvre une parenthèse, et là, lorsque nous avons une controverse avec les théologiens chrétiens, on marche des œufs de Pâques, si j'ose dire, parce que ils s'emparent tout de suite à l'expression. Vous voyez bien que l'identité de Moïse, c'est par une face homme, par une face Dieu. Et nous avons un midrash qui dit ça. Le midrash dit, en clair, je vous cite le midrash littéralement, « Chetio ulma'ala elokim, chetio ulmata adam. » Qu'est-ce que ça veut dire homme de Dieu ? Sa moitié est plus haut Dieu, sa moitié est plus bas homme. C'est tout à fait l'homme-Dieu. Okay ? Et alors, il faut lire le midrash avec un accent juif. Je vous le lis avec un accent juif. Chetio, sa moitié, ulmarla, Elohim, est plus haut que sa moitié d'en haut, Dieu. Chetio, ulmarta, sa moitié d'en bas et plus bas, l'homme. Ça a été clair ? Moïse était entre Dieu et l'homme. Et donc sa moitié supérieure est du côté de Dieu et sa moitié inférieure du côté de l'homme. Rattachez ça, ça y est, c'est clair ? Rattachez ça, vous voyez que cette idée de l'incarnation, de la confusion des substances est rejetée par le Midrash. C'est les païens qui disent comme ça. Okay. Mais le Midrash est clair en hébreu. Et rattachez ça au niveau de l'être, selon le Kuzari. Les niveaux de l'être, c'est, j'ai cité ça à notre cours, je ne sais pas si c'était en hébreu ou en français, Domem, le silencieux, en français. Bien fait. Domem, le silencieux, Stomeach, le végétal, Chai, le vivant, Hayam Daber, le vivant parlant, et plus haut, le Navi, le prophète. Le prophète est entre Dieu et l'homme. Mamash, comme nous vivons dans un temps où on ne voit pas les prophètes, en tout cas, ceux qui ont la rémanence de la prophétie, qui ont le Ruach HaKodesh, sont cachés. C'est des justes cachés. Parce que si c'était dévoilé, on aurait tout de suite une Hiloula. Hein, une Hiloula. Et alors, ils sont cachés. Et ils sont vraiment autres. Ils sont entre Dieu et l'homme. Et c'est sérieux. Mais les païens font de ça ce que font les païens. Bien, y a-t-il une autre question ? Donc retenez, pour cette question, le sens en hébreu du mot « etzem ». Je vous citerai lui. Je vous citerai juste un enseignement de la Kabbalah, mais sans l'expliquer. Si vous prenez les lettres du mot « Moshe », c'est les lettres du mot « Hachem » à l'envers. Donc, qu'est-ce que...
J'aurais deux questions à vous poser. La première,
Une à la fois.
La première, c'est, je n'ai pas très bien compris l'histoire que vous avez racontée sur l'armée de Moïse.
Rappelle-moi de quoi il s'agit.
C'est-à-dire que d'écouter d'être entre deux tzadikim.
Pas entre deux. Je reprends la Mishnah. Et puis l'autre question que tu poses après, parce que sinon moi, je m'embrouille. Voilà, la Mishnah dit ceci. Kol yamai gidalti ben hachamim. Toute ma vie, j'ai grandi entre les sages. Velo matzati la gouffe, et je n'ai pas trouvé pour le corps, ça m'a pris. Après, pourquoi le corps hein? Tov mishtika. Meilleure chose que le silence, et une autre girsa dit Tov elashtika. Je n'ai pas trouvé de choses bonnes que le silence. Pas qu'il y en a d'autres, mais elles sont moins meilleures. Et alors, le Ranahan de Bratzav explique qu'est-ce que ça veut dire Lidalti ben haramim. J'ai grandi parmi les sages. Alors il explique, qu'est-ce qu'il y a entre les sages? Ben, c'est entre. Entre les sages, il y a, il y a le silence ou la marloquette. C'est clair. Et alors, le Tana, là, dit, voilà ce que j'ai compris de cette expérience que j'ai eue. C'est qu'il vaut mieux se taire qu'entrer en marloquette. Et ça, ça se rattache à une autre Mishnah. Du Pirkei Avot, je vais vous expliquer d'après le Maharal. Parce qu'il y a des marloquets de l'Echem Shamaïm où vous avez des gens qui, avec énormément de Saint-Georges, hein, j'avais le dragon. Hein. Attendez, comment on chantait ça au scout? Comme Saint-Georges? J'ai oublié. Qui viennent au secours de la justice et qui accusent d'autres sages de tout ce dont ils les accusent. Hein. On joue au Talmid Chacham, alors on est en marloquet. Un gadol a dit que, tout de suite, vous avez un autre gadol qui dit le contraire. Vous avez remarqué ça? C'est grave. Et alors, la Mishnah dit ceci. « Kol machloket shei l'eshem shamaim sofa l'itkayem. Le kol machloket shei nena l'eshem shamaim en sofa l'itkayem. » Et je vais vous citer l'explication du Maharal, qui a un long chapitre là-dessus, je schématise, bien sûr. « Toute querelle qui est désintéressée, l'eshem shamaim, finit par se résoudre, c'est la traduction habituelle. Le Maharal dit, sofa l'itkayem finit par perdurer, l'itkayem par durer, parce qu'elle est l'échem shamaim, elle durera. Alors qu'une querelle qui n'est pas l'échem shamaim, en sofa l'itkayem finira par être oubliée. Et alors c'est pourquoi il ajoute une consigne, méfiez-vous des querelles l'échem shamaim, elles n'ont pas de fin. Alors, je suis en train de vous dire ça sous forme de chidouche, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Okay, on croit au contraire, on félicite les gens. Quand ils sont en querelle, les chemins, il faut se méfier de ça. Quelle est la vraie motivation qu'il y a derrière? Aller au secours de la justice? Est-ce qu'il n'y a pas un juge là-haut? Oui. Quelle est la vraie motivation qu'il y a derrière? Donc l'apparence de l'Echem Shamaïm est très dangereuse. Et surtout quand ce n'est pas une apparence, quand c'est vraiment l'Echem Shamaïm, okay, il faut se méfier des gens têtus. Okay, puisque ce sont deux manières différentes, tout autant valables, Elou, Belou, Dibre, Lokim, Chaim, de vouloir dire la même chose. Alors pourquoi pas faire honneur l'un à l'autre et réciproquement? Pourquoi s'entêter? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est clair ce sujet? Voilà. Alors c'est ça que dit la Mishnah. Et relisez dans l'Arab Nahan Novasav, c'est dans les Likutei Amarim. Deuxième question.
La deuxième question, au début, vous avez commencé par. Peut-être j'ai mal compris, mais j'ai l'impression que vous avez fait une différence entre les Juifs de la diaspora. Et des Israélites.
Ah oui.
Disons que c'était.
Non, mais. Tu as très bien compris, Habib. Les uns, je dirais, sont à l'indice des pères, c'est les Juifs de diaspora. Et les autres sont à l'indice des fils, c'est les Israéliens. Et je vais expliquer. Bien sûr, les Juifs ont aussi des pères et des fils, et les Israéliens aussi. Il y a même des grands-pères et des petits-fils, de deux côtés. Reprenez les versets. Reprenez les versets. C'est très clair. Les pères vivent une promesse, les fils vivent la réalisation de la promesse. Et il y a un hiatus qui, malheureusement et dangereusement, se creuse de plus en plus. Et regardez pourquoi, que c'est pas pour rien. Je vous cite d'abord un verset de Jérémie : Veshavu banim nigvulam. et les fils reviendront à leurs frontières. Et les pères ? Donc il ne s'agit pas d'état civil. Mais surtout, le dernier verset de la prophétie d'Elia au Nabi. Mais avant cela, je voulais expliquer. J'ai vécu pas la moitié, déjà grâce à Dieu, ça bascule. Mais une partie de ma vie, j'ai connu deux diasporas, celle d'Afrique du Nord et celle de France. Et donc, je connais la mentalité du juif de diaspora. Je suis d'origine juive. Ne croyez pas que c'est une blague, ok ? Et je suis peut-être un peu juif original, mais en tout cas originel. Mais les juifs de diaspora ne comprennent rien à la mentalité israélienne. Ils projettent des catégories qui n'ont rien à voir. Et bien sûr, à toutes les transitions possibles et inimaginables. J'ai su. C'est un processus d'engendrement. Mais alors, chaque fois, je suis frappé par cette sincérité avec laquelle les juifs de diaspora parlent d'Eretz Israël comme du pays des ancêtres, alors que c'est eux les ancêtres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Vous faites une généralité, là,
déjà. Bien sûr, je fais une généralité.
Je la trouve choquante.
Écoute, tu sais pourquoi tu la trouves choquante ? Parce que tu penses à des personnes qui ne sont peut-être pas dans le cas que tu crois. Réfléchis bien. Et ce n'est pas pour rien que j'ai dit tout à l'heure, tu sais, j'ai eu ton âge avant toi. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ne cherchez pas des diagnostics, comprenez ce qu'on apprend. Et je te cite des versets, et les versets ne généralisent pas, ils disent ce qu'ils disent. Il y a chez les juifs de diaspora beaucoup d'hébreux, plus ou moins cachés. Et il y a chez les hébreux d'Israël beaucoup de juifs, plus ou moins en ghetto. Et c'est la situation historique que nous vivons. Alors je sais très bien que ça risque de choquer, mais il ne faut pas être choqué. Il y a un verset qui dit « Qui l'eau be choqué a ishirti » Il faut apprendre, comprendre et réfléchir. Et encore une fois, je vous cite des versets. Alors retournez au verset et regardez ce que les Mefarchim m'ont dit. Mais le thème que j'essaie d'expliquer là, c'est la différence entre la promesse et la réalisation de la promesse. Et pendant 2000 ans, je vais citer une des expériences que j'ai eues déjà au Talmud Torah. Nous avons répété dans la prière Ashrenu, Matov Helkenu, Manaim Goralenu, Umayafa Meod, Yerushatenu. Alors qu'on a vécu tous les malheurs de tous les enfers du monde, et on disait que nous sommes heureux, comme c'est nous, etc., etc. Nous, le peuple en ballotage, on était le peuple élu. Bon. Mais on avait la foi qu'une promesse se réaliserait, et c'est considérable, 2000 ans, c'est énorme. La foi des Juifs de diaspora pendant 2000 ans, c'est colossal. Et puis c'était la foi en une promesse. Et la foi en une promesse peut être shlema, sans l'ombre d'une ombre. Quand arrive le temps de la réalisation, les difficultés commencent. Relisez le dialogue entre Moïse et Dieu à ce propos. La fin de la paracha de Vaïra, la fin de paracha de Bo et le début de la paracha de Vaïra. Et lisez ce que les maîtres de la tradition des Juifs pendant 2000 ans ont dit à ce sujet. Et ce qu'a dit le Midrash. Et vous verrez que c'est ça qu'on est en train de vivre. Alors, il ne faut pas réagir comme ça, pieusement, seulement. Il faut étudier. Donc, c'est clair.
Israël, c'est Israël. L'Israël d'aujourd'hui, c'est Israël qui est dans la Torah.
Et c'est l'Israël d'où ? Qui est l'Israël qui est dans la Torah ?
C'est
ça. C'est ce que je disais. On est encore dans la promesse. Il y a une différence entre les pères et les fils, dans une minute. Et je citerai simplement. Et d'ailleurs, ça concerne ton. Pas ta question, parce que ce n'est pas une question. Si tu l'étudies, tu verras qu'il n'y a pas de question. Ton inquiétude, parce que tu penses à des gens que ça risque d'atteindre. Et je le dis très, très gravement, je sais que c'est un problème grave. Mais, rappelez-vous ce que j'ai dit. Lisez les derniers versets de la paracha de Bo, et ce que dit Rashi en citant le Midrash, et ce que dit le Midrash, et lisez le début de la paracha Vaera. Et réfléchissez bien que ça s'est déjà passé à la sortie d'Égypte. La même chose, et avec les mêmes réactions, d'ailleurs. Et oui, lisez. Donnez-moi un livre de chemin.
Vous parlez du dernier verset
de Parasha de Shmuel. De Parasha, vous. Je vais vous le lire. Et d'ailleurs, pour mieux approfondir cette question, lisez les premiers chapitres de Josué. Et vous verrez que Josué a eu affaire aux mêmes perplexités. Mais je dirais, le dernier verset de la prophétie, quand Malachi dit « Veshiv levavot albanim, velebanim alavotam » C'est le problème de la fin des temps. Et il réconciliera le cœur des pères et le cœur des fils, et réciproquement. Parce que les pères sont ceux qui ont entendu la promesse et les fils ce qu'il réalise. Et quand il commence à réaliser, il y a tout ce que la Torah a raconté à la sortie d'Égypte. Et que nous vivons dans les journaux israéliens, les mots ayant un sens simple. Alors je sais très bien que il faut étudier. Et on a mis 2000 ans pour ça. Alors j'ai oublié les derniers versets de Brou. Je ne savais pas pourquoi je devais parler de ça. Je ne savais pas que c'était parce que tu étais là. Alors ça te revient. Non, pas de Brou. Attendez. La fin de Shemot. Tu as raison. Shemot, avant Vaera. Non, Brou, c'est Brou à la parole. Je vous dis, voilà. Vayashov, Moshe et Lachem. Voilà, Moïse va se faire le porte-parole des perplexités devant les difficultés et les incompréhensions. Et ça commence déjà dans les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. Vayashov, Moshe et Lachem, Vayomar. Et Moïse revint vers Dieu et lui dit, Adonai, Seigneur, Lama Areotal Hamazé, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Lamazé chez l'Artani, pourquoi m'as-tu envoyé? Umeas Batiel Paro. Et depuis que je suis venu chez le pharaon, derrière, en filigrane, il y a la visite de Herzl chez le pape. Les Daber Bishimcha, pour parler en ton nom, Era la Hamazé, ce peuple n'a eu que du mal. Veatzel Oitzartet Amecha, et sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Vayomer Hashem El Moshe, et Dieu dit à Moïse, Ata tiré, maintenant tu verras Asher Esel et Paro, ce que je ferai au pharaon. Et le Midrash intervient. Maintenant tu verras, mais à la fin de temps tu ne verras pas. Lisez bien le Midrash. Qui, Beat Hazaka et Shalechem, car il vous renverra avec une main forte, il vous expulsera sinon vous ne sortirez pas. Et Beat Hazaka et Gareshem, et par une main forte, Gareshem, il vous. Guérouche, il vous. Merzo de son pays. Et Dieu parla à Moïse et lui dit : c'est moi qui suis Hashem. Vaira el Abraham, Israël et Jacob El Shaddai, et je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob en tant que Dieu Tout-Puissant El Shaddai. Rashi explique, Dieu de la promesse, Ushmi Hashem, le nom d'Artilaïen, et mon nom de Hashem, je n'aurais pas, je ne me suis pas fait connaître d'eux, et Rashi explique, celui qui réalise. Alors, effectivement, les contemporains n'avaient pas ce privilège que nous avons d'avoir un modèle, d'avoir un enseignement qui nous permet des repères. Les contemporains étaient les pères. Les contemporains la sortie. Nous sommes les gens du repère. Bien, alors on se revient à la semaine prochaine. En attendant, je signale que les tfilotes de Tisha B'Av, c'est le lundi soir, Arvit à 8h, et le mardi matin, Shachrit à 7h et Mincha à 19h. Alors, bon jeûne et Shabbat Shalom.